vous invite à prendre les Bibles bleues qui sont devant vous à la page 943 pour lire Matthieu au chapitre 7, versets 1 à 11, page 943, Matthieu 7, verset 1. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil il y a une poutre. » Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent?
On va essayer le micro sans fil. Si jamais il y a des problèmes, eh bien je passerai à celui-là. Merci beaucoup, Églantine, pour la lecture. Effectivement, contrairement à ce que dit le PowerPoint, c'est bien jusqu'au verset 11. Nous n'allons pas examiner ce soir le verset 12. Alors, nous continuons notre série dans le Sermon sur la montagne. Donc pour ceux qui étaient là les dimanches précédents, vous savez qu'on lit actuellement ce rassemblement d'enseignements de Jésus qui se trouve dans les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Et ce soir, nous allons nous intéresser à trois brefs enseignements de Jésus. Et nous allons essayer de comprendre chacun de ces enseignements et de voir aussi, dans une certaine mesure, quel rapport ils peuvent entretenir entre eux. Mais on va procéder tout simplement épisode par épisode. Et donc, on va examiner ce texte en trois temps. Et je vais simplement m'en tenir aux images que Jésus donne lui-même. J'en ai pas trouvé de meilleures. Donc, premier point, la paille et la poutre. Deuxième point, les perles et les cochons. Et enfin, chercher et trouver, le troisième point. Alors, le texte qui vient d'être lu commence par une parole terrifiante. Ou en tout cas, qui devrait nous terrifier. Au verset 2. Écoutons bien ce que dit vraiment ce verset. C'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Je le répète au risque de vous surprendre, cette parole doit nous faire peur au moins dans un premier temps. On ne doit pas rester ensuite dans la crainte, mais elle doit nous faire peur dans un premier temps parce qu'elle nous replace devant notre Créateur. Jésus nous rappelle ici que nous aurons des comptes, que nous avons des comptes à rendre à Dieu parce qu'il est notre Créateur et que nous sommes ses créatures. Et que dès que nous faisons une appréciation morale de la conduite ou des paroles d'une autre personne, eh bien nous acceptons implicitement d'être tenus aux mêmes critères. Les paroles de Jésus dans ces versets 1 à 5 sont assez connues et je crois qu'elles sont souvent détournées de leur sens véritable. Alors souvent, on brandit ces paroles pour justifier une attitude qu'on pourrait appeler relativiste. Donc, face à un acte mauvais, si on était tenté de prononcer une appréciation morale, de dire « c'est pas bien », et là, on nous sort ce texte en disant « attention, ne jugez pas, on juge pas ». Alors, est-ce que c'est ce que Jésus a vraiment voulu dire? Alors, il me semble que la réponse est non. Et je vois deux preuves de cela. La première est au verset 5. Jésus conclut ses paroles à propos du jugement en disant « Ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Donc Jésus semble admettre qu'on puisse ôter la paille de l'œil de son frère, c'est-à-dire d'aider son frère ou sa sœur dans la foi à prendre conscience du mal qu'il commet. Mais cela doit passer par un préalable, qui est de se défaire soi-même du mal que l'on commet. Ça c'est plus dur. L'autre preuve que Jésus n'est pas en train de simplement dire « ne prononcez jamais de jugement moral » se trouve, à mon sens, au verset 6, quand Jésus nous invite donc à ne pas donner ce qui est sacré aux chiens et à ne pas donner nos perles aux cochons. Alors on va essayer de comprendre ce que Jésus voulait dire par là. Mais ce qui est sûr, c'est que cette parole implique une conscience de la réalité du mal. Jésus ne veut donc pas dire, comme on aimerait le penser parfois, et ça nous arrangerait bien de temps en temps, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut s'abstenir de toute évaluation morale de ce qui se passe autour de nous. Et d'ailleurs, personne ne pense vraiment, même si on le dit souvent, faut pas juger, personne ne pense vraiment, je crois, que ça veut dire cela. Je ne connais pas une seule personne qui n'aimait pas d'évaluation morale face à ce qui lui paraît profondément mal. Alors, quand il s'agit de choix moraux individuels, on va facilement dire « il ne faut pas juger ». Mais même les plus relativistes ou les plus cyniques des personnes seront révoltés si, par exemple, un enfant est assassiné, pour prendre un exemple extrême. Et là, on ne va pas dire « il ne faut pas juger ». Personne ne dira cela. Au contraire, on va dire qu'il faut juger un tel comportement et qu'il doit y avoir une peine, une sanction. On ne peut pas supporter qu'un tel mal reste impuni. Alors, que veut donc nous dire Jésus lorsqu'il dit « ne jugez pas de peur d'être jugé ». Je crois que ce qu'il veut nous dire ici, c'est que nous ne sommes pas Dieu et que nous aurons nous-mêmes des comptes à rendre de notre conduite. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous placer au-dessus des autres en prétendant les juger de l'extérieur comme si nous n'étions pas concernés par le même problème fondamental qui est le problème du péché humain, de la désobéissance à la volonté de Dieu. Et pour Jésus, toute évaluation morale de ce que font et disent les autres doit passer par une reconnaissance de ce que nous avons nous-mêmes des comptes à rendre à Dieu. Et pour illustrer son propos, Jésus va raconter une sorte de blague. Alors, à cause de la distance chronologique, contextuelle et culturelle, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a un élément humoristique ici. Je suis convaincu qu'il y en a un. Alors, je vais essayer une petite actualisation de la blague de Jésus. C'est un peu risqué, mais imaginez que je porte une chemise qui a été trempée dans la sauce spaghetti et également qui est recouverte de crottes de mouette. Donc vous visualisez vraiment atroce, la chemise extrêmement sale. Maintenant, imaginez que je rencontre un tel dans la rue. Par exemple, je rencontre Paul dans la rue, j'ai ma chemise complètement sale. Et je lui dis, attends, il y a une petite poussière là. Ouais, c'est à peu près ça, je crois, que Jésus voulait dire par cette anecdote. Et c'est ridicule, parce qu'on voit bien qu'il y a un manque d'équilibre total entre notre propre situation et la petite chose que nous voyons chez l'autre. Et donc, c'est assez ridicule d'imaginer quelqu'un qui marche avec une poutre dans l'œil et qui dit « Attention, t'as une petite poussière là, t'as une paille dans ton œil. » Si on regarde bien ce que dit Jésus, d'ailleurs, il ne dit pas « Ne te préoccupe pas de la paille dans l'œil de ton frère. » Ce qu'il dit, c'est « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» C'est différent. Donc Jésus nous invite, je crois, à l'examen de soi devant toute évaluation morale. Autrement dit, si je suis outré par la parole désagréable et gratuite de quelqu'un dans le métro, par exemple, ça arrive dans le métro assez souvent, je dois me demander, ok, ça me choque, je trouve ça injuste, j'ai envie de juger cette personne et de me placer en juge, c'est-à-dire au-dessus de cette personne en quelque sorte, mais est-ce qu'il m'arrive de temps en temps à moi aussi de prononcer des paroles désagréables et gratuites ? Demandons à notre entourage, peut-être que ça sera éclairant. Si je vois quelqu'un qui cherche à épater la galerie, à en mettre plein la vue, à vraiment se mettre en avant, en cherchant manifestement à se faire remarquer, je serais sans doute agacé, voire très énervé. Mais je peux me demander, est-ce qu'il ne m'arrive pas à moi aussi, peut-être plus subtilement, de faire des choses pour être remarqué Et est-ce que finalement, je fais pas ça assez souvent, de glisser une parole pour montrer que j'ai fait quelque chose de bien? Ça renvoie à ce que nous avions vu d'ailleurs il y a quelques semaines. Faire un geste pour montrer que je suis quelqu'un de respectable. Donc Jésus ne nous dit pas de rester neutre face au mal. Ça serait vraiment, je pense, une fausse interprétation de ce texte. Il nous dit quelque chose qui est beaucoup plus déstabilisant pour nous. Il nous dit que si nous dénonçons le mal, nous devons être d'abord prêts à le dénoncer en nous-mêmes. Et que les critères par lesquels nous évaluons la conduite des autres, et à mon avis, pas un jour ne passe sans que nous n'évaluions la conduite des autres, au moins un moment ou un autre, eh bien ces critères, nous devons être conscients qu'ils s'appliquent à nous-mêmes. Et que la sévérité dont nous usons devant l'attitude des autres, elle sera appliquée à notre propre comportement. Et donc il faut se poser cette question, avant d'évaluer moralement un geste ou une parole de quelqu'un autour de moi, est-ce que j'ai appliqué la même mesure à ma propre conduite? Et il faut bien comprendre que la parole de Jésus n'est pas ici seulement pour dénoncer, mais elle est aussi et surtout pour enseigner, elle est pédagogique. Parce que cet examen de soi nous permet à la fois d'être conscient de nos propres torts et de se poser la question, mais est-ce que j'ai pas une poutre dans mon œil finalement? Et donc de les confesser à Dieu, comme on a pu le faire tout à l'heure par exemple par ce chant, pardon Seigneur, pardon. Peut-être lorsque c'est approprié de confesser une faute à un autre, peut-être même à la personne que j'allais reprendre pour autre chose. Mais aussi, cet examen de soi me permet d'y voir plus clair pour aider mon prochain à prendre conscience de sa faute lorsque c'est approprié. Et lorsque la relation le permet, lorsque c'est indiqué de le faire. Et même si je ne suis pas coupable de la même faute que lui, le fait de savoir que je suis concerné par le même problème fondamental du péché, que moi aussi j'ai tendance à faire ce qui me plaît au mépris des autres et au mépris de Dieu, eh bien ça va m'aider à aborder la faute de l'autre avec humilité et avec réalisme. Je ne vais pas m'ériger en juge de l'autre, comme si j'étais dans une autre catégorie de personnes, mais plutôt en connaisseur du problème qui est le sien. Et je vais d'autant plus pouvoir l'aider à en prendre conscience. Donc oui, soyons sensibles au mal qui se déroule autour de nous. Et ce serait terrible si nous n'étions pas sensibles au mal. Et soyons prêts à le dénoncer. Mais si nous ne sommes pas prêts à dénoncer le mal que nous commettons nous-mêmes, y compris lorsque c'est un peu subtil, alors notre dénonciation du mal sera vide. Alors bien sûr, cette dénonciation du mal dans notre vie ne doit pas nous conduire au désespoir. Je voudrais bien insister là-dessus. Lorsque je dis que nous aurons des comptes à rendre à Dieu, ce n'est pas quelque chose... ça doit nous faire peur au premier abord, mais nous devons ensuite comprendre que si nous avions confié notre vie à Christ, nous savons que notre relation avec Dieu est sûre et que rien ne peut nous enlever le salut qu'il nous a offert. Et justement, cette grâce que nous avons reçue de sa part doit nous conduire à poser un regard différent sur la faute de l'autre. Il ne s'agit pas de le minimiser, mais de reconnaître que je ne méritais pas plus qu'un tel ou une telle de recevoir le pardon de Dieu. Or, j'ai reçu le pardon de Dieu par pure grâce. Et mon plus grand désir devant le mal que commet mon prochain, ça devrait être de désirer ardemment qu'il ou elle puisse connaître aussi la réconciliation avec Dieu. Et donc, je nous encourage à nous poser certaines questions. Est-ce qu'en ce moment, par exemple, nous avons un conflit avec une personne qui pourrait être dénoué si nous commençons par reconnaître notre part de faute? Est-ce que ça ne pourrait pas débloquer la situation? Quelle que soit la faute de l'autre, qui peut être réelle, mais si moi-même j'ai été fautif, est-ce que ça ne peut pas déjà commencer à débloquer la situation? Et souvent, le fait de demander pardon va conduire l'autre à demander pardon aussi. Surtout lorsque nous nous savons pardonner par Dieu. Ou bien on peut se demander, est-ce qu'il y a une attitude qui me gêne chez un tel ou une telle, mais en fait, je n'ai pas détecté que moi je fais exactement la même chose. Assurons-nous donc que nous n'avons pas une poutre dans l'œil avant de nous intéresser à la paille qui est dans l'œil de notre voisin. Je passe au deuxième point, je serai plus bref, les perles et les cochons, pour reprendre l'image de Jésus. Alors de quoi est-ce que Jésus parle ici? C'est un verset assez mystérieux, il faut le reconnaître, à premier abord en tout cas. Il nous demande de ne pas donner ce qui est sacré aux chiens et de ne pas jeter nos perles aux cochons. Alors à l'époque de Jésus, les chiens et les cochons, c'était considéré comme des animaux impurs. Les chiens, c'était pas Gigi avec le petit ruban dans les cheveux, c'était pas le bon petit toutou comme on les aime. C'était des animaux plus ou moins sauvages qui en gros faisaient les poubelles, comme beaucoup de chiens d'ailleurs encore ont cette vocation dans le monde, et qui par conséquent étaient considérés comme des animaux sales. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays dans le monde, on retrouve encore cette attitude face aux chiens. J'ai vécu un petit peu au Liban, et là-bas, c'est seulement les classes aisées et très occidentalisées ont parfois des chiens domestiques, mais sinon, ça ne se fait pas du tout. C'est vraiment considéré comme des animaux sales. Et puis, on notera que même chez nous, on n'apprécie pas particulièrement de se faire qualifier de chien. Les cochons, quant à eux, les cochons, c'était des animaux dont la consommation était strictement interdite, selon la loi de Moïse. Et qui, là encore, représentait tout ce qui est impur. Et vous le savez, encore aujourd'hui, ceux qui pratiquent le judaïsme ou l'islam également ne mangent pas de cochon. C'est un animal considéré comme impur. Les perles, elles, renvoient clairement à ce qu'il y a de plus précieux. Hein, cette image, on pourrait encore l'utiliser aujourd'hui. Et dans le contexte, ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'annonce du royaume de Dieu. L'annonce de la bonne nouvelle de la réconciliation que Dieu offre aux hommes. Lorsqu'on regarde ce verset dans son contexte, c'est clairement de cela qu'il s'agit. Et d'ailleurs, au chapitre 13 du même évangile de Matthieu, Jésus utilise à nouveau l'image des perles pour parler du royaume. Et donc, c'est clairement de cela qu'il s'agit. Jésus semble donc dire qu'il y a des personnes à qui nous ne devrions pas donner nos perles, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu. Voilà qui paraît bien surprenant. Est-ce que Jésus nous invite à rejeter certaines personnes, à décider que non, elles ne valent pas la peine? Alors rappelons-nous ce que Jésus vient de dire dans le passage précédent. Il vient de dire que nous devons être lucides par rapport à notre propre péché et ne pas nous ériger en juges des autres. Donc il ne s'agit pas d'avoir une vision manichéenne où il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre et on ne va pas aller leur parler, on ne va pas leur parler de l'Évangile. Au contraire. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, va dire Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu. Encore moins de se détourner d'une personne parce qu'elle est dans une situation de péché. Parce que dans ce cas-là, il faut encore une fois regarder à nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que Jésus a bien voulu dire par cela? En fait, en utilisant des termes aussi forts que chien et cochon, malgré ce qu'on pourrait penser à première lecture, je ne pense pas que Jésus avait pour but d'être insultant. Mais certainement de renvoyer à l'impureté spirituelle de personnes qui persistent et signent dans leur rejet de Dieu. Plus tard, il dira à ses disciples que si des personnes rejettent obstinément l'annonce de la bonne nouvelle, il devrait les laisser pour aller annoncer cette bonne nouvelle à d'autres qui l'accueilleront. Alors évidemment, ce verset est à manier avec précaution. On sait qu'il y a des personnes qui résistent à Dieu pendant des années, mais qui finissent par se tourner vers lui. Et ce serait terrible si, dès que notre témoignage est accueilli avec scepticisme, nous disons « Ah, un cochon j'ai rien dit, je m'en vais. » Ça serait terrible, et ce n'est pas du tout ce que veut dire Jésus. Mais il y a parfois des situations où il faut savoir se dire « Cette personne a clairement entendu la bonne nouvelle, et elle y est clairement hostile. Et il arrive un moment où je vais laisser ça entre elle et Dieu, et je vais aller témoigner auprès d'autres personnes qui peut-être accueilleront avec joie cette bonne nouvelle. » Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus aucun espoir pour cette personne. Peut-être que Dieu mettra quelqu'un d'autre sur son chemin. Peut-être que nous-mêmes, plus tard, dans une autre situation, aurons à nouveau l'occasion de le faire. Mais il arrive un moment où notre témoignage risque même d'être utilisé et manipulé par quelqu'un pour nous faire du mal, pour vraiment tourner en dérision le magnifique évangile de Dieu, ce que nous ne devrions pas supporter en tant que chrétiens, si nous aimons Dieu. Et je pense que c'est ce que Jésus veut dire par sa mise en garde à la fin du verset. Il dit « Ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. » Alors oui, nous qui sommes chrétiens, témoignons sans relâche, bien sûr. Et ne nous arrêtons surtout pas au premier obstacle. N'utilisons pas ce verset en faisant dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Mais dans certaines situations, et là nous devons demander à Dieu le discernement de nous montrer ces situations, quand on se trouve devant quelqu'un qui manifestement et de manière répétée méprise l'évangile de Jésus-Christ, il arrive un moment où nous devons sans doute savoir laisser cette personne se débrouiller avec Dieu et annoncer la bonne nouvelle à d'autres personnes qui pourront la recevoir avec joie. Jésus ne nous donne pas ici d'indication claire pour savoir quand et comment il faut avoir cette démarche. Je pense que ça reste l'exception plus que la règle, mais nous pouvons lui demander sa sagesse. Et lui demander avec audace, comme justement, on va le voir dans le troisième point, chercher et trouver. Il y a 2 ans environ, j'ai donné un message ici même sur ces versets 7 à 11, pris tout seul. Et bien évidemment, je devrais être beaucoup plus bref ce soir. Alors je voudrais commencer par ce qui choque le plus, a priori, dans ce que Jésus dit au verset 7 à 11. Verset 11, en tout cas je trouve que c'est ce qui choque le plus au premier abord. Si vous, tout en étant mauvais, hein, vous imaginez Jésus qui dit ça à son auditoire, si vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? On a ici, derrière des mots choquants, entre guillemets, un résumé de la bonne nouvelle. Jésus décrit la condition humaine avec dureté, mais en fait c'est de la lucidité. Vous qui êtes mauvais. En fait, ça rejoint, je crois, ce qu'il a dit au verset 1 à 5. Nous avons tous quelque chose dans notre œil qui doit être enlevé avant que nous puissions légitimement nous prononcer sur le mal qui nous environne. Nous sommes mauvais, ou en tout cas nous étions mauvais, et nous avons encore tendance à l'être, parce que nous tous, nous avons tendance à vouloir vivre sans Dieu. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous savons qu'il a fallu que Dieu lui-même nous ramène à lui pour que nous puissions le connaître. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est plutôt lui qui nous a trouvés. Mais malgré le fait que livrés à nous-mêmes, nous sommes mauvais, force est de constater que nous sommes capables de faire le bien à ceux avec qui nous sommes en relation. Et même les pires criminels font du bien, en général, à au moins quelques personnes de leur cercle le plus intime. Donc nous sommes capables de faire le bien à nos enfants, à nos amis. Et Jésus donne cet exemple. Si notre enfant nous demande du pain, nous n'allons pas lui donner une pierre. S'il nous demande un poisson, nous n'allons pas lui donner un serpent. Jésus veut que nous comprenions que Dieu, de même, fait du bien à ses enfants, mais à combien plus forte raison que nous, parce que lui est bon. Dans tout ce sermon sur la montagne, Jésus nous appelle à entrer en relation avec Dieu et à reconnaître en lui notre Père. Et il veut que nous comprenions quel privilège extraordinaire cette paternité implique. Jésus ne dit pas ici que Dieu nous donnera tout ce que nous voulons, quand nous le voulons, de la façon dont nous le voulons, et on sait bien que ce n'est pas le cas. Dieu fait ce qu'il y a d'ultimement mieux pour nous, toujours. Il a une perspective qui est infiniment plus vaste que la nôtre. Hein, Dieu, ce que Dieu voit, toutes les relations de cause à effet qui nous échappent complètement, dans le temps, dans l'espace, etc. Tout ce que Dieu voit, nous ne le voyons pas. Et nous ne savons pas bien souvent ce qu'il y a de meilleur. Et il nous faut accepter que Dieu sait mieux que nous ce qu'il est bon de nous accorder ou non. Mais Jésus affirme ici le principe selon lequel nous sommes invités à une relation d'audace et de foi auprès de Dieu. Dieu veut nous combler. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Alors, c'est quoi ce qu'il y a de meilleur ? Eh bien, Jésus nous le dit par ailleurs, c'est de le connaître lui et d'être réconcilié avec notre Père. Commençons donc par demander à Dieu ce qu'il y a de meilleur. La foi, l'espérance, l'amour, la croissance spirituelle, les dons du Saint-Esprit pour être au service des autres et de l'Église, le discernement dans telle ou telle situation. Et là, on a largement de quoi faire déjà en demandant ces choses-là. Et Jésus nous dit que ce sont les choses les meilleures. Alors parallèlement, demandons aussi les choses du quotidien. C'est tout à fait légitime. Jésus, d'ailleurs, nous invite, dans la prière que nous avons étudiée il y a quelques semaines, à demander à Dieu notre pain quotidien, notre nourriture quotidienne et tous les besoins auxquels nous pouvons faire face. Mais attachons-nous premièrement à ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. Et que ces choses-là soient prioritaires dans nos prières. Parce que c'est rarement le cas, hein. Je m'inclus totalement là-dedans. On a tendance à prier d'abord pour mon entretien d'embauche, tel ami qui ne va pas bien, etc. C'est tout à fait légitime de prier pour ces choses-là. Mais si mon entretien d'embauche m'intéresse plus que le fait d'apprendre à mieux aimer Dieu et à mieux aimer mon prochain, à faire la plus grande joie de Dieu, eh bien c'est qu'il y a un déséquilibre. Et c'est quand même qu'on a un peu tendance à voir Dieu comme un distributeur de bienfaits plutôt que comme notre Père céleste, que nous sommes appelés à aimer de tout notre être. Et donc je nous mets au défi dans nos vies de prière de chercher d'abord le royaume de Dieu, comme Jésus le dit par ailleurs dans ce même discours. commençons par orienter nos prières vers ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. Demandons avec audace que Dieu nous donne ces choses dont on sait qu'il veut nous les donner, parce qu'il le dit dans sa parole. Donc là, vraiment, on peut y aller, on peut lui demander ces choses. On sait qu'il va nous les accorder, parce qu'on sait qu'il veut que nous les ayons. Et dans le cadre de cette relation de foi et d'audace, où nos priorités cherchent à s'aligner sur les priorités de Dieu, eh bien là, nous serons d'autant mieux positionnés, si j'ose dire, pour demander à Dieu toutes les choses du quotidien. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu nous demandes de te demander avec audace, avec foi. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous voulons te demander que tu nous accordes de grandir dans la foi. Nous voulons te demander que ceux qui sont parmi nous ce soir et qui peut-être ne te connaissent pas encore, n'ont pas de relation personnelle avec toi par la réconciliation en Jésus-Christ, par sa croix et sa résurrection, que ces personnes puissent entendre ta voix dans ta parole et puissent te rencontrer. Nous te demandons de faire de nous des témoins fidèles et droits de ta parole, de toi, de ta bonne nouvelle, de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te demandons de nous apprendre à mieux t'aimer. Et nous savons que si nous continuons à demander ces choses sans relâche et avec audace et avec foi, nous savons que tu vas nous les donner. Alors permets, Père, que nous soyons persévérants et fidèles dans la prière. Au nom de Jésus. Amen.